France Inter.
Bonjour, la tête au carré, c'est Benoît. Je vous appelle depuis une petite ville dans la vallée d'Aspen, dans les Rocheuses au Colorado. Je suis restaurateur depuis très très longtemps et je tiens à vous remercier et vous remercier très très fort de vos très très bonnes émissions. C'est vraiment une chance de vous avoir et de vous écouter en podcast depuis si loin. Et en ce qui concerne le vin et la viticulture, il est vrai que les habitudes changent et qu'il est aussi important de parler que le consommateur a une grosse part dans ces changements, car beaucoup de consommateurs dans les nouveaux pays comme aux États-Unis, en Australie ou au sud de l'Amérique se focus plus sur le goût du vin que sur son cépage et son appellation. Donc ça va changer, tout change, nous changeons et je crois que Darwin l'a bien cerné aussi. Donc merci encore et bonne continuation.
Bonjour, René à Sauzet-Vaucet. On nous prend vraiment pour des lapins de 3 semaines avec cette obligation de tenir son chien en laisse dans les bois. C'est sans nul doute pour mieux remplir la gibecière des chasseuses et des chasseurs en septembre. Allez, on continue d'aller dans le mur en klaxonnant. Bel après-midi quand même à toutes et à tous.
Bonjour, Ludovic de Sens dans Lyon. Je vous appelle parce que Lyon a débordé et ce qui serait intéressant, c'est de savoir le degré de pesticides qu'il peut y avoir quand l'eau déborde des champs, puisque justement les champs sont gavés de pesticides, donc ce qui fait que l'eau ne pénètre pas jusque dans les nappes phréatiques, mais reste un peu aux abords. Et surtout que les jardins ont tous été inondés, donc je voudrais savoir si par exemple ça joue beaucoup sur tout ce qui est pesticides et glyphosate dans les jardins. Je vous remercie pour votre émission, au revoir.
Il faudra effectivement que l'on se penche sur la question. Merci pour vos messages, amis de la Terre au carré. Continuez à nous appeler au 01 56 40 45 45. Le long de nos côtes, des falaises aux plages de sable, la mer grignote du terrain, le littoral s'érode. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère, car à l'effet de la houle s'ajoute la montée du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes liés au dérèglement climatique. Alors comment vont évoluer nos bords de mer dans les prochaines années? Le 5 avril dernier, le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a dévoilé ses projections de l'érosion côtière à plus ou moins long terme. Les scénarios proposés ont été établis pour 2028, 2050 et 2100. Il en ressort que dans 4 ans déjà, 1 millier de bâtiments pourraient avoir été emportés par la mer et à la fin du siècle, dans l'hypothèse la plus sombre, 450 000 logements pourraient avoir été atteints, auxquels il faut ajouter bien sûr d'autres constructions, hôtels, bâtiments publics, routes, campings. Quelles sont les régions les plus concernés? Que faire pour limiter les dégâts face à la montée de la mer? Faut-il résister ou s'adapter? Et de quelle manière doit-on commencer à déplacer des habitations? Faut-il repenser les activités économiques, industrielles, touristiques sur nos côtes? Combien tout cela va coûter et qui va payer? C'est à ces questions que nous allons nous intéresser avec nos deux invités. Stéphane Costa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et professeur à l'université de Caen-Normandie et président du conseil scientifique de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Également avec nous à distance, Élise Poirot, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes responsable de la mission zone côtière et milieu marin de la DREAL Bretagne. La DREAL, c'est la direction régionale de l'environnement et du logement. On vous retrouve dans un instant pour parler avec vous de l'érosion de nos côtes et des défis que nous allons devoir relever collectivement. Et les questions des auditeurs arrivent sur la page de la Terre au carré sur franceinter.fr. Vers 14h30, Camille passe au vert. Camille Cronier s'intéressera à un autre océan, celui de Mimas, un petit satellite de Saturne. Voilà pour le sommaire de cette émission préparée par Emma Bouvier, réalisée par Anaïs Reinhardt, avec à la technique Jérôme Ragano et Mélissande Roux.
La Terre au carré. Daniel Fievé sur France Inter.
Expliquer, identifier, montrer la réalité d'un phénomène qui est le grignotage par l'océan des terres, l'équivalent d'un terrain de football chaque semaine qui disparaît dans notre pays sous l'effet de la progression des océans. Et un phénomène qui s'accélère. Il y a des choses qui sont certaines à court terme, et d'autres qu'on doit éviter d'ici la fin du siècle en se mobilisant aux côtés des élus locaux pour protéger les Français qui sont concernés. On a identifié 500 communes, on a commencé à travailler avec les maires qui sont les plus concernés et on travaille avec des plans qui sont du sur-mesure. Dans certains endroits, on peut mettre des dunes, dans d'autres, on peut imaginer des digues, mais dans d'autres aussi. Il faut dire qu'on aura des zones qui seront inhabitables et des territoires qui seront de plus en plus grands. Dispositif d'indemnisation, possibilité de relogement à l'arrière de la commune sur d'autres terrains, ce sont toutes les solutions qui sont aujourd'hui sur la table et qu'on est en train de travailler sur la base de ces cartes.
La voix de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, interviewé dans le journal de 20h de TF1. C'était le 4 avril dernier. Les cartes dont il parle, ce sont celles qui viennent d'être publiées. Elles ont été publiées le lendemain de son intervention par le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Quels sont les grands enseignements? Alors, il y avait des cartes, puis il y avait aussi des scénarios, hein, des projections qui nous enseignaient ce que pourrait devenir nos littoraux en 2028, en 2050 et en 2100. Quels étaient les grands enseignements de cette étude, Stéphane Costa?
Les grands enseignements, c'est qu'on ne pourra plus y vivre et en vivre de la même façon sur le littoral. Et effectivement, c'est extrêmement violent pour les gens qui y habitent ou qui y travaillent. Mais la mer ne va pas nous laisser le choix. Il va falloir organiser dans de nombreux endroits le repli parce qu'il y a possiblement mort d'homme. Alors quand on parle d'érosion, souvent c'est pas vraiment ce qu'on évoque. Mais souvent l'érosion génère aussi des franchissements par la mer, des inondations qui peuvent être intenses, oui, catastrophiques. Et donc là, pour le coup, gérer des drames.
Si on regarde d'un peu plus près les scénarios, pour 2028, donc c'est demain, hein, 2028, on est dans 4 ans, 500 communes sur le long des côtes françaises sont concernées, 1000 bâtiments, c'est-à-dire 538 logements, dont la moitié sont des résidences secondaires, qui pourraient être anéantis par la mer. Là, c'est un scénario maximaliste ou on est dans vraiment dans le champ des possibles, Stéphane Costa?
Non, on est vraiment dans le champ des possibles. Les collègues du CEREMA ont finalement reporté ce qu'on a mesuré ces dernières décennies en termes d'érosion en y ajoutant l'impact d'un événement majeur. Et le problème, c'est que l'élévation du niveau des mers ou peut-être l'augmentation de la fréquence ou l'intensité des tempêtes pourrait exacerber cette situation. Donc je dirais pas que c'est un minimum.
Ah oui, c'est plutôt optimiste, si on peut le dire comme ça. Quelles sont les régions? On s'en rend compte aussi en lisant, en regardant les cartes proposées. Toutes les régions ne sont pas, les régions côtières ne sont pas toutes concernées de la même façon. Quelles sont celles qui sont le plus concernées, Stéphane Costa?
Bon, sur la côte aquitaine, effectivement, on a de nombreux endroits qui sont déjà en érosion depuis longtemps et là, ça va s'exacerber. En fait, il faut distinguer ce qui va se passer sur les plages et les dunes et ce qui va se passer sur les falaises, comme en Seine-Maritime, par exemple, où là, l'évolution va être un peu plus lente, même si elle va s'accélérer, ça va pas rattraper tout de suite l'urbanisation, comme ça pourrait le faire pour des plages et des dunes qui peuvent reculer en l'espace de quelques semaines, lorsque vous avez une succession de tempêtes de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres.
Pour les régions les plus concernées, on a la Corse, les Pyrénées-Atlantiques, le Var, le Calvados, la Seine-Maritime, la Somme et la Guadeloupe, hein, c'est ceux qui payent pour le moment le plus lourd tribut. Élise Poirot, vous, je le rappelle, hein, vous êtes de la Dréal Bretagne. Pour la Bretagne, comment ça se passe si on zoome sur votre région à vous?
Ça dépend un petit peu finalement du pas de temps auquel on se place. Moi, ce que j'en retiens de cette étude, c'est vraiment le besoin d'anticipation finalement. Alors qu'on pointait déjà bien du doigt, mais clairement le sujet pour la Bretagne, il se joue à l'échelle du siècle, de la fin de siècle, qui est une échéance à laquelle il n'est pas forcément évident de se projeter. Mais clairement, chez nous, ça nous confirme bien que le sujet de l'érosion et du rythme d'érosion, on va dire à relativement court terme, il n'est pas ingérable, mais effectivement, quand on colle là-dessus la question de l'élévation du niveau de la mer et du coup du recul du trait de côte global qu'on peut avoir du coup par combinaison de différents phénomènes, là, on touche du doigt un sujet de bien plus grande ampleur et vraiment une problématique d'aménagement du territoire qui est à repenser.
Combinaison de plusieurs phénomènes, rentrons dans le sujet. Qu'est-ce qui fait que ça s'accélère actuellement, le recul du trait de côte? Alors, le trait de côte, pour le dire vite, c'est la frontière entre la terre et la mer, sachant qu'il s'agit un peu d'une moyenne, hein, puisqu'avec les marées, ça ne cesse de bouger, même au cours de la même journée. Mais pour revenir à cette question, qu'est-ce qui fait que ça s'accélère, Élise Poirot?
Bien, l'érosion, hein, elle est notée, et marquée depuis longtemps. C'est quelque chose d'assez naturel qui, d'ailleurs, au fil des saisons, peut évoluer. Mais je pense que Stéphane Costa peut-être pourra aussi en redire un mot. Le trait de côte, il est assez dynamique par nature. Alors, je le rejoins aussi tout à fait sur le fait qu'il faut distinguer un peu les natures de côtes, les morphologies géologiques, on va dire, entre des falaises dures qui vont effectivement pouvoir être grignotées de temps en temps ou parfois avec des à-coups assez importants, et ça de manière irréversible, en tout cas à une échelle de vie humaine. Et puis les côtes sableuses, où là effectivement on peut avoir sur les périodes propices un engraissement, c'est-à-dire que les plages vont pouvoir gagner des sédiments, les dunes vont pouvoir gagner des sédiments, et puis sur des périodes plus hivernales avec des tempêtes, là le trait de côte va reculer. Quand on dit qu'on a de l'érosion, c'est de l'érosion constatée à travers les années et les décennies. C'est-à-dire que même à travers les saisons et les cycles annuels, on constate effectivement une progression de cette limite entre la terre et la mer vers la terre, évidemment, sinon on s'inquiéterait pas tellement. Et du coup, ça, effectivement, en Bretagne notamment, on a des secteurs en érosion qui peuvent être marqués sur la baie d'Audierne, pour ne citer qu'un exemple parmi d'autres, et puis d'autres secteurs où ce rythme-là d'érosion n'est pas très marqué. La question, effectivement, elle est celle du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer.
Stéphane Costa, oui, il faut faire circuler. On entend les oiseaux derrière vous. Hein. Vous n'êtes pas avec moi dans le studio, mais effectivement, du coup, il faut que je puisse reprendre un peu la parole. Justement, sur ces différentes côtes, ce sont aussi les effets de du niveau de la mer qui monte et qui monte. Alors, à quel rythme exactement, Stéphane Costa ?
Bien, en ce moment, là aussi, le phénomène s'accentue. Il y a encore une quinzaine d'années, on disait que l'élévation du niveau des mers était de l'ordre de 1,7 mm par an à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 3,4 mm par an et ça s'accélère encore. Donc, qu'est-ce que ça va générer comme élévation du niveau de la mer à moyen long terme? Alors, quand on regarde les résultats du GIEC international, en 2007, le GIEC disait qu'on aurait 40 cm d'élévation du niveau des mers. 7 ans plus tard, c'était 60 cm. En 2021, c'était 90 cm. Et là, on est quasi sûr qu'on aura pour 2100 proche du mètre, voire plus, en fonction de ce qui va se passer, notamment en Antarctique.
C'est ça, oui. Selon la quantité de glace des pôles qui fondent, évidemment, le résultat ne sera pas le même. Alors, pour 2100, hein, pour ce scénario de 2100 que nous propose le CEREMA, alors là, par contre, ils le disent eux-mêmes, ils ont pris l'option la plus sombre avec les scénarios les plus pessimistes du GIEC. Et là, on a 500 000 hectares de littoral qui disparaissent, 450 000 logements. En termes de coûts, ça représente une perte de 86 milliards d'euros. Là, on rentre vraiment
dans le dur.
Dans le dur et dans la catastrophe.
Alors la catastrophe, en termes d'aménagement du territoire, oui, parce qu'il va falloir replacer ces personnes, mais les replacer où? Faut-il encore avoir du foncier pour les mettre en place dans des zones non dangereuses? Mais ce foncier, il va falloir l'acheter. Dès lors que on va annoncer le rachat à l'intérieur des terres de ce foncier, la spéculation financière va se remettre en place. Donc, qui va payer? Est-ce qu'on va mettre en place une solidarité nationale? Est-ce qu'on va indemniser les personnes qui ont des biens ou des activités sur le littoral? À quelle hauteur? Toutes ces questions se posent et le ministère de la Transition écologique se les pose.
Ouais, et nous aussi, dans cette émission, on va se les poser. Il y en a une autre qui est prégnante et qui est dès à présent, il faut se la poser. Est-ce qu'on résiste ou est-ce qu'on s'adapte face à la montée des eaux, Élise Poirot?
Alors justement, ça me permet peut-être de préciser une petite chose aussi quand on parle de cette étude du CEREMA, c'est-à-dire que, vous le dites, hein, c'est un scénario maximaliste quand on se projette à un horizon de 2100, et aussi effectivement en prenant en compte des défaillances des ouvrages de protection, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'endroits, on a des systèmes d'endiguement, des digues, des enrochements, etc. Et sur ce scénario illustrant vraiment, en fait, il l'appelle le scénario de l'inaction, c'est-à-dire si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, de quel secteur on parle et de combien on parle vraiment si on continue, enfin, si on ne fait rien dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Ce qui veut dire que quand on prend en compte l'élévation du niveau de la mer, c'est pas seulement de l'érosion dont on parle et de la projection de l'érosion, mais aussi finalement d'avoir des zones qui aujourd'hui présentent peu de relief et finalement n'ont pas une altimétrie très élevée par rapport au niveau de la mer, qui du coup pourraient être gagnées de plus en plus souvent et définitivement
Ah, on vous a perdu, on entendait les oiseaux, on ne vous entend plus, on n'entend plus les oiseaux non plus. Stéphane Costa, cette question, elle est intéressante de savoir. Effectivement, aujourd'hui, il y a des digues qui protègent les côtes. Le jour où ces digues soit ne résistent plus, soit ne suffisent plus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut apprendre à faire autrement, à négocier autrement avec la mer?
Il va falloir effectivement négocier, lutter contre la nature, c'est peut-être illusoire, ça coûte très très cher et on s'aperçoit que en fait la mise en place de ces ouvrages peuvent parfois exacerber les problèmes d'érosion et de franchissement. Donc oui, alors faut pas être dogmatique en se disant on a eu 100 ans ou 70 ans d'ingénierie salvatrice qui nous a protégés et aujourd'hui on va passer au tout environnement, c'est pas ça dont il s'agit, faut pas être dogmatique. Et il n'en demeure pas moins que quand on met en place les ouvrages, il y a un coût d'entretien également. Et ce coût d'entretien, il faut l'assumer. Et puis, ces ouvrages vont être sous-dimensionnés par rapport à l'élévation du niveau des mers. Oui,
ne va plus suffire.
Pas du tout. Et il ne s'agit pas de rajouter quelques hauteurs en sommet d'ouvrage. Il va falloir les reprendre complètement, ce qui est extrêmement coûteux, pour finalement des solutions qui seront assez modestes, et surtout des apports positifs assez modestes.
Et puis, on se rend compte aussi, Stéphane Costa, que par le passé, parce qu'on a beaucoup construit de digues, d'enrochements, pour justement freiner l'avancée de la mer dans les terres. On l'a beaucoup fait dans les années 70, on commence à avoir un peu de recul et on se rend compte que parfois on arrange la situation localement mais que ça a des conséquences pas du tout positives un peu plus loin.
Oui, c'est un peu la volonté d'essayer de gérer ça au-delà des limites administratives qui sont trop restrictives, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand on agit à un endroit, on renvoie parfois le problème chez le voisin.
Avec des déplacements de sédiments qui se font ou ne se font plus.
Exactement, ce qui peut, ce que j'évoquais tout à l'heure, exacerber les problèmes et puis mettre en place des ouvrages, c'est aussi, moi j'appelle ça la triple peine pour les élus. La première peine, c'est qu'il faut investir, parfois s'endetter, pour mettre en place ces ouvrages et les entretenir. Ces ouvrages, deuxième peine, font disparaître le tampon protecteur, les sédiments qui jouent le rôle de tampon protecteur contre la soda houle. Et troisième peine, cette disparition des plages et des dunes, c'est la disparition des aménités environnementales, d'attractivité touristique du secteur. Donc c'est la triple peine pour les élus.
Ouais. Alors on va continuer à aborder tout ça, on voit le sujet est vaste et tentaculaire. Nos territoires côtiers face à la montée de la mer, tel est le thème de la Terre au carré cet après-midi. Pour poser une question à nos invités Stéphane Costa et Élise Poirot, dès qu'on aura rétabli la liaison, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Fini l'aventure, l'inattendu. Le sais-tu, le sais-tu? Où sont nos aimants perdus? Le sais-tu, le sais-tu? Nous voilà comme deux inconnus. Où sont nos mouvements perdus? Nos gestes tendres disparus.
On s'aime et on ne s'aime plus. Fini joli geste, entendu.
Le sais-tu, le sais-tu? Où sont nos mouvements perdus? Le sais-tu, le sais-tu? Nous voilà comme deux inconnus. Portés par le vent, la vie lentement nous laisse maintenant. S'aller sans élan avec ce mélange, larmes et sentiments coulant ruisselant, portés par le vent. Où sont nos simples imprévus, nos silhouettes sur l'avenue?
On court et ça ne marche plus.
Le sais-tu, le sais-tu? Où sont nos simples imprévus? Le sais-tu, le sais-tu? Nous voilà comme deux inconnus, portés par le vent. La vie lentement nous laisse maintenant, salés sans élan, avec ce mélange. La vie sentiment coulant ruisselant, portés par le vent, portés par le vent. La vie lentement nous laisse maintenant, salés sans élan, avec ce mélange.
C'était Gaëtan Roussel avec Marguerite Thiam qui chantait Le sais-tu sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Une catastrophe nationale, selon le gouvernement. Il n'a pas fallu une heure pour qu'en Vendée des centaines de maisons soient inondées jusqu'au toit. Cette nuit, au cœur de la tempête, cette digue a rompu, piégeant en contrebas des milliers de riverains sur les communes de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer.
L'eau rentrait par les fenêtres, par les portes, partout, quoi.
C'est monté très vite, hein. Très vite. En l'espace de un quart d'heure.
Au petit matin, les évacuations se poursuivaient. Des centaines d'hommes sont mobilisés, notamment à La Rochelle. Ce soir, le bilan est encore provisoire, entre 45 et 50 morts. Mais d'autres corps pourraient être découverts dans des maisons encore inondées.
La tempête Xynthia, le 28 février 2010. Cette tempête a causé la mort de 53 personnes en France. La mer est montée à l'intérieur des terres en Charente-Maritime. On l'entendait à l'instant. Nous nous intéressons à l'avenir de notre littoral dans la Terre au carré avec nos invités, le géographe Stéphane Costa et Élise Poirot de la Dréal Bretagne. Stéphane Costa, les événements comme la tempête Xynthia pourraient se multiplier dans les années à venir?
Alors là, la communauté scientifique n'est pas totalement sûre quant à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes, mais ça peut arriver. Et la tempête Xynthia nous a rappelé violemment et dramatiquement que ça pouvait avoir des conséquences considérables sur le littoral. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut éventuellement augmenter. Je dirais que la science va nous renseigner dans les années qui viennent.
Mais là, on est dans des phénomènes, ça n'est plus vraiment l'érosion, on est dans des phénomènes de submersion, et ça aussi, ça concerne nos côtes, et c'est aussi un problème majeur.
Bien sûr, on parle. Et le rapport du CEREMA parle surtout d'érosion, sauf pour 2100. Mais effectivement, il faut pas oublier qu'il y a un deuxième aléa qui est la submersion de tempête, qui peut être liée justement à l'érosion. L'érosion des dunes peuvent entraîner des franchissements par la mer. Et donc, les deux sont liés. Et là, aujourd'hui, en France, nous avons près de 1,4 million de personnes d'ores et déjà menacées par ces phénomènes de submersion de tempête. Mmh. Et ça va s'accentuer avec l'élévation du niveau des mers.
Oui. Élise Poirot, on a ce message d'auditeur de Daniel qui nous écrit depuis l'île de Bréa, nous dit-il. Notre granit s'érode lentement. Ce n'est pas le trait de côte qui nous préoccupe, mais bien la submersion. On peut avoir les pieds dans l'eau 3 jours par mois et un trait de côte inchangé.
Oui, tout à fait. C'est vraiment en Bretagne, peut-être à la différence d'autres régions exposées, on a vraiment les mêmes secteurs en fait, hein, qui peuvent être concernés à la fois par des phénomènes d'érosion, alors notamment quand on est sur des côtes sableuses, des plages, et par l'élévation du niveau de la mer. On a pas mal de situations distinctes. Mmh. On n'a pas d'homogénéité d'une commune à l'autre. Mais quand on parle de recul du trait de côte en Bretagne, on parle bien des deux phénomènes, à la fois de l'érosion qui gagne parfois quelques mètres par année, et puis de cette projection à plus long terme de l'élévation du niveau de la mer qui va faire que des zones aujourd'hui submersibles risquent d'être gagnées par la mer.
Oui. Vous avez en Bretagne ce qu'on appelle les zones basses qui sont concernées par les risques de submersion. C'est environ, comme chiffre, j'ai 35 000 hectares, c'est ça ce sont c'est cette surface-là qui est soumise au risque de submersion.
Oui, c'est ça. C'est cet ordre de grandeur-là. Et l'étude, hein, à nouveau du CEREMA pour y revenir, et son scénario de 2100, en fait, hein, ça correspond grosso modo à ces zones basses-là, en considérant que, puisqu'elles sont très peu élevées par rapport au niveau de la mer, risquent d'être gagnées par la mer, à nouveau, si les ouvrages ne sont plus entretenus, s'ils rompent, si les dunes sont effacées, etc.
Mais est-ce qu'on a fait des erreurs, Stéphane Costa, par le passé? Est-ce qu'on a trop construit, ou même tout simplement construit, dans ces zones de submersion? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire, ou est-ce que ces zones sont de toute façon trop importantes et qu'on n'avait pas le choix?
Non, c'est approprié un territoire qu'on avait oublié mobile, dynamique et donc à risque. Donc on a voulu avoir les maisons les pieds dans l'eau. Eh bien,
on les a.
On va les avoir. On va les avoir, on les a déjà.
Ouais, c'est ça. Vous avez aussi ce sentiment, Élise Poirot, que l'on a construit, que l'on a donné des permis de construire dans des zones où on n'aurait pas dû le faire?
Mais mieux que ça, ça fait des siècles qu'on a commencé à gagner des terrains sur la mer. Alors certes, on n'est pas aux Pays-Bas, mais les polders, en France aussi, ça existe. On a voulu gagner des terres cultivables historiquement sur la mer, on a levé des digues et puis on a fini par y construire, perdant la mémoire finalement de la topographie, des risques, etc. Mmh. Ça, effectivement, on ne peut que le constater dans toutes les zones côtières et dans les zones inondables également en bordure de fleuve.
Oui. Mais alors, Élise Poirot, vous, votre rôle à la DREAL, comment on fait avec l'existence? Parce que vous arrivez, voilà, il y a certaines décisions qui ont été prises par le passé, des gens qui habitent dans des endroits où finalement on se dit que c'était pas forcément la meilleure idée de construire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant ?
C'est exactement, c'est toute la question de la stratégie nationale de gestion du trait de côte, mais aussi des dispositions législatives qu'on a désormais, c'est-à-dire qu'avec la loi climat et résilience, hein, ça fait 3-4 ans voilà, qu'on a les premières briques, les premiers outils, mais qui confirment les orientations de l'État sur le sujet. Donc on parlait de la question des ouvrages tout à l'heure, et donc l'État plaide plutôt pour ne pas mettre des ouvrages partout parce que c'est inefficace, mais pour autant il y a des secteurs où cela peut être pertinent.
Oui.
Et puis évidemment, le gros sujet désormais, c'est la question de l'aménagement du territoire, de ne pas augmenter finalement le nombre de logements ou d'activités qui sont exposés au recul du trait de côte, mais aussi de gérer l'existant et du coup d'aller vers ce qu'on appelle la recomposition spatiale. Alors c'est un terme un peu barbare, mais pour dire que effectivement les territoires littoraux et notamment les territoires exposés vont devoir changer de visage finalement, et on va devoir penser à des relocalisations des activités, des logements, et puis finalement que chaque action d'aménagement qu'on peut faire sur le territoire améliore la situation.
Mmh. Oui, on va en reparler de ces relocalisations, comment elles s'organisent, comment elles sont financées, qui va payer, combien ça va coûter. On va en parler dans la suite de cette Terre au carré. Mais à 14h31, il est temps de retrouver Camille Cronier.
France Inter, la Terre au carré.
Camille passe au vert et nous emmène explorer un océan beaucoup plus lointain.
Est-ce que vous visualisez la Lune ? Oui, bien sûr, vous visualisez la Lune. Bon, bah maintenant, imaginez-la en mini, 8 fois plus petite, seulement 400 km de diamètre. En fait, c'est l'objet céleste le plus petit du système solaire, avec encore plus de cratères, genre carrément grêlés et un peu moches, pour tout dire. Une surface toute gelée, bref, un satellite tout à fait inhospitalier. C'est bon, vous l'avez
dans la tête ? Oui, on l'a bien, oui.
Eh bien, voici Mimas, l'une des 8 lunes principales de Saturne, à 1,5 milliard de kilomètres de nous, sorte de vilain petit canard du coin, donc. Même l'astronome Valérie Lenné de l'Observatoire de Paris le reconnaît.
On n'aurait jamais misé sur Mimas. Hein.
et pourtant, la voilà désormais dans la cour des grands, cette lune, comme ses voisines Star Titan ou Encelade, sous le feu des projecteurs à son tour, parce qu'elle cache un trésor sous sa surface, un océan liquide.
C'est plus de la moitié du volume de Mimas, hein, entre 50 et 60% du volume de Mimas aujourd'hui, qui est composé d'eau liquide. Vous avez un cœur de roche au centre de Mimas, qui fait à peu près 100 km de rayon, surplombé par à peu près 70 km d'océan. Et vous avez ensuite à la surface 20 à 30 km de glace.
Valérie Lenné et ses collègues de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides signent une étude parue la semaine dernière dans Nature, fruit de plus de 10 ans de travail. Au départ, une intuition qui remonte même à 2010. Il a fallu la démontrer parce qu'il y avait deux hypothèses possibles sur ce que renfermait Mimas en observant sa rotation sur elle-même.
Nous sommes aperçus que ce mouvement de rotation avait une partie uniforme. Et à ça venaient s'ajouter des petites oscillations sur la rotation, ce qu'on appelle des librations. Et l'une de ces librations, donc de ces oscillations, avait une amplitude plus grande que ce qui était prédit à l'époque par les modèles d'intérieur de Mimas. Et donc nous étions arrivés à la conclusion que soit Mimas avait un océan d'eau liquide sous sa surface, soit alors Mimas avait bien un intérieur rigide, glacé, tel qu'on l'avait toujours imaginé, mais avec dans ce cas un noyau de roche très allongé.
Voilà, un peu comme un ballon de rugby, donc ballon de rugby ou océan. Pour le savoir, les astronomes se sont ensuite penchés sur le mouvement de révolution de Mimas autour de Saturne. Alors très très complexe hein, le mouvement, il y a l'influence de toutes les autres lunes, mais aussi des anneaux de Saturne. Et ils ont trouvé un indice, un facteur clé.
On a cherché un petit signal, une petite amplitude qui fait à peu près 10 km et qui caractérise la structure interne de Mimas. Et c'est en quantifiant cette petite signature que nous avons vu qu'elle nous indiquait clairement que c'était un océan global sous la couche de glace et que ça ne pouvait pas être un intérieur rigide, quelle que soit la forme du noyau de silicate qu'on pouvait lui donner.
L'orbite de Mimas circulaire au départ a été modifiée et a pris une forme elliptique qui fait que ça prend de la vitesse, ça favorise les frictions à l'intérieur du satellite, ça chauffe et donc ça fait fondre la glace qui se transforme en eau liquide. Ils en sont sûrs?
Là, on n'a aucun doute, oui. Il n'y a pas moyen en fait, de réconcilier le mouvement de rotation de Mimas sur lui-même et son mouvement orbital avec un intérieur rigide.
Et qui dit eau dit vie, mais Valérie Lenné reste prudent, bien sûr.
On n'en sait strictement rien, mais enfin, de toute façon, si vous deviez avoir de la vie, il ne faut pas imaginer des poissons. Hein.
Oui, bon, on s'en doute. Des formes primitives, et Mimas a un avantage par rapport aux quatre autres lunes sur lesquelles de l'eau liquide a déjà été découverte. C'est sœur Titan et Encelade, mais aussi Europe et Ganymède, les lunes de Jupiter. C'est que son océan serait très jeune comparé aux 4,5 milliards d'années de l'univers.
Alors, il a moins de 25 millions d'années et la fourchette la plus probable, c'est entre 5 et 15 millions d'années.
5 à 15 millions d'années à peine.
Si on cherche à retracer l'évolution de l'apparition de la vie, si vous recherchez à savoir à quoi peuvent ressembler les réactions chimiques les plus élémentaires, si on cherche les premiers instants, Mimas, c'est la bonne cible.
Et ne croyez pas qu'aller analyser un jour directement cette eau liquide soit totalement de la science-fiction. Des projets sont déjà dans les tuyaux pour Encelade et Europe et voici comment ça se passerait.
Le principe, c'est de poser un atterrisseur sur la couche de glace qui ensuite, eh bien, avec un système de piles nucléaires, va tout simplement chauffer et va faire fondre la glace sous ses pieds et donc va petit à petit, eh bien, rentrer dans la glace jusqu'à tomber dans l'océan. Et ensuite, il va communiquer avec un orbiteur qui sera dans le système.
Voilà, ça paraît presque facile hein, comme ça. En attendant, en tout cas, que Mimas ne soit peut-être un jour exploré, l'équipe va essayer de préciser l'âge de cet océan surprise, là où on ne l'attendait absolument pas, ce qui laisse penser que ce pourrait être pareil pour d'autres objets célestes.
Et c'était une rediffusion de la chronique de Camille Crenier, datée du 12 février dernier. Toutes les chroniques Camille passe au vert sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Allez, retour sur Terre dans un instant. Nous repartons en bord de mer pour voir comment nos côtes vont évoluer face à la montée de l'océan dans les prochaines années. Et nos invités, Stéphane Costa et Élise Poirot, répondront aux questions que vous leur adressez sur franceinter.fr. One of a kind won't give.
C'était Floating on a Moment de Bess Gibbons sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Daniel Fievé sur France Inter.
Là, à ce rythme, votre maison, elle sera en danger dans combien de temps ?
Ah, si vous retirez les modules, l'année prochaine, elle est à terre.
Une maison aujourd'hui invendable et bientôt inhabitable, pour laquelle Régis ne touchera rien.
Hop.
Alors. Du coup, vous avez demandé à votre assurance si vous étiez couvert ?
Oui, ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps qu'on sait qu'on n'est pas couvert. Catastrophe naturelle, c'est illimité, mais c'est, on n'est pas dans le cas d'une catastrophe naturelle.
Contrairement à la sécheresse, l'érosion n'est pas prise en charge par les assurances. Et c'est une bombe à retardement. Car en France, des propriétaires comme Régis, il y en a potentiellement des milliers.
Et c'était un extrait de l'émission Capital sur M6, daté de novembre 2023. Nous étions dans le Pas-de-Calais. Nous nous intéressons à l'avenir de notre littoral avec nos invités, le géographe Stéphane Costa de l'Université Caen Normandie et Élise Poirot, responsable de la mission Zone côtière et milieu marin de la Dréal Bretagne. On l'entendait avec cet exemple, Stéphane Costa. Comment on indemnise ces gens qui ont acheté une maison, qui sont propriétaires et tout d'un coup qui se sentent abandonnés parce que ça rentre dans aucune case. Personne ne va prendre en charge le préjudice qu'ils subissent.
Et oui, c'est un vrai problème et c'est la raison pour laquelle le gouvernement et le ministère de la Transition écologique réfléchissent aux modalités d'indemnisation potentielles. Pour l'érosion, pour l'instant, ce n'est plus considéré comme un risque naturel majeur, donc pas d'indemnisation. Je pense que ça va revenir sur la table à un moment ou à un autre, mais la question qui se pose aussi, c'est est-ce que c'est au denier public d'indemniser la spéculation financière qui se fait sur le littoral ? La question se pose. Comment on indemnise quelqu'un qui a une maison secondaire ou une maison principale, en fonction de son patrimoine également ? Voilà, tout est sur la table et rien n'est tranché pour l'instant.
Oui, comment vous faites, vous, avec ces questions non tranchées, Élise Poirot, à la Dréal Bretagne ?
Alors, c'est vrai que à nouveau, le cas de la Bretagne et la chance peut-être qu'on a, c'est que les habitations dont on parle sont parfois déjà en zone submersible. Et dans ce cas-là, on rentre déjà dans un cadre.
On rentre dans un tunnel, en tout cas avec vous, décidément. La liaison n'est pas très bonne avec vous et la Bretagne, Élise Poirot. On reprendra cet exemple tout à l'heure. Il y a un autre exemple assez emblématique, Stéphane Costa, avec un immeuble à Soulac-sur-Mer. On est en Gironde. L'immeuble a été beaucoup cité dans les médias. Il se baptise Signal, cette tour Signal. Elle a dû être démolie et l'indemnisation des propriétaires a été un vrai casse-tête.
Oui, mais toujours pour les mêmes raisons. L'érosion côtière n'est pas considérée comme un risque majeur, naturel majeur, donc il n'y a pas d'indemnisation.
Finalement, il y en a eu. Oui. C'est pour ça. Ouais. Normalement, il n'y en a pas. À un moment, il était même question que ce soit les propriétaires qui déjà n'avaient plus leur logement, qui doivent payer pour détruire la tour qui allait s'effondrer. Finalement, il y a eu une indemnisation.
Il y a eu indemnisation après beaucoup de débats pour c'est une forme d'achat de la paix sociale qui me semble totalement légitime parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des gens à qui on a octroyé parfois des permis de construire et on ne peut pas les laisser, les gens, démunis en leur disant c'est ballot, vous avez tout perdu. Ce n'est pas possible.
Et en l'occurrence, c'est l'État qui a payé pour la tour Signal, pour indemniser à hauteur de 70% de la valeur initiale des logements de ce bâtiment. Mais on se dit qu'on ne pourra pas faire ça. À chaque fois, quand ça va se multiplier, on ne va pas pouvoir payer systématiquement.
Non, c'est un coût qui est considérable et qui explique peut-être la raison pour laquelle ni les assurances ni l'État, en France et ailleurs d'ailleurs, ne pas vouloir indemniser l'érosion côtière. Ça va générer des coûts considérables de rachat potentiel.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une décote du foncier sur les bords de mer, Stéphane Costa ?
Le problème, c'est que c'est peut-être nécessaire parce qu'aujourd'hui, le mètre carré le long du littoral est très cher et augmente d'année en année. Donc, il y a un moment, il va falloir casser cette spéculation si on veut rentrer dans l'indemnisation à un moment ou à un autre. Je le rappelle, c'est du denier public. Et donc, le denier public n'est pas là pour indemniser la spéculation financière.
Sur le littoral, vous observez aussi, et notamment en Bretagne, Élise Poirot, on vous a retrouvé, que le tourisme et les logements touristiques se portent bien. Là aussi, ça pose des questions.
Oui, tout à fait. On a une activité touristique extrêmement importante, ce qui a d'ailleurs des effets, sans même parler de recul du trait de côte, des effets sur la capacité à se loger, hein, d'ailleurs, des familles avec beaucoup de résidences secondaires dans certaines communes. Donc on a effectivement une pression foncière qui est importante. Et puis peut-être d'ailleurs, si on se projette là aussi à long terme, des questions qui peuvent se poser sur est-ce que la Bretagne restera une région parmi les plus accueillantes finalement dans un monde qui se réchauffe, et donc peut-être effectivement avec une démographie qui va continuer à augmenter. Donc c'est effectivement une vraie question. On a déjà des communes littorales qui sont grosso modo 2,5 fois plus denses avec plus de population et plus de logements que la moyenne nationale. Donc on a un peu un effet de ciseau finalement entre cette pression qui continue et le recul du trait de côte.
Alors à l'avenir, il va aussi falloir déplacer des routes, des infrastructures publiques. Tout ça aussi, ça va avoir un prix. Stéphane Costa, est-ce que ça a été estimé ça ? Est-ce qu'on peut savoir combien ça va coûter ?
Il y a régionalement des études diverses et variées qui commencent à quantifier tout ça et effectivement les chiffres effraient terriblement parce que quand on commence à tirer le fil des embêtements, c'est sans fin.
Ouais, le CEREMA a tenté une estimation. Alors évidemment, ils le disent que c'est vraiment une estimation dans le sens où localement ça change beaucoup, mais on parle quand même de 2,5 à 6 millions d'euros par kilomètre de rivage protégé.
C'est considérable.
C'est considérable. On commence aussi à envisager des façons de financer tout ça. Il y a un comité national du trait de côte, le CNTC, qui a été créé en mars 2023, avec l'idée de trouver des financements. Alors là, on parle de créer de nouvelles taxes pour financer tout ça.
Oui, on commence à regarder vers les assurances et les réassurances, on commence à regarder vers où on pourrait effectivement trouver les moyens pour. C'est très compliqué. Madame Panonac, la députée Panonac, essaye d'organiser des réunions pour finalement trouver les financements. Mais aujourd'hui, dans un monde où on refuse la mise en place de nouveaux impôts, et quel impôt et sur qui ? Est-ce que c'est une solidarité nationale ou on le met uniquement régionalement ? Toutes ces questions se posent et sont traitées, mais n'ont pas encore abouti à des réponses.
En France, les communes les plus exposées, alors selon le CEREMA, il y a 500 communes, mais toutes ces communes ont-elles pris conscience du problème et qu'il faut anticiper, qu'il faut trouver de l'argent pour faire face ?
Oui, très clairement, ça fait quelques, je vais dire, décennies, ça ne me rajeunit pas que je travaille là-dessus, mais on a vraiment une prise de conscience de la part des élus qui ont bien compris que face au réchauffement climatique et à l'élévation du niveau des mers, les problèmes vont aller croissants et qu'on ne pourra pas, comme on l'évoquait tout à l'heure, y vivre et en vivre de la même façon, et qu'il va falloir agir, et agir, c'est pas forcément rester sur place, se maintenir, c'est probablement se déplacer, mais ça pose des problèmes techniques, juridiques, financiers, et les élus en sont tout à fait conscients. Par contre, aujourd'hui, on ne sait pas encore comment faire.
Oui, c'est ça, on n'a pas toutes les solutions, non. De toute façon, on n'a pas non plus tout prévu, il y a quand même une grosse part d'incertitude sur ce qui va se passer.
Oui, mais il ne faut pas attendre, parce que l'anticipation, c'est aussi étaler dans le temps le financement, et donc ça sera un peu moins douloureux.
Oui. Élise Poirot, on le disait, les grandes structures qui ont pu être mises en place, les digues, les enrochements, ça des limites, même si dans certains cas, c'est encore nécessaire. Est-ce qu'on en revient et est-ce qu'on se met à imaginer des dispositifs peut-être plus souples, plus doux, et de quelle nature seraient-ils ?
Oui, tout à fait. On le disait tout à l'heure, hein, clairement, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on constate les limites, voire la contre-productivité quelque part de ces ouvrages-là. Les élus peuvent aussi faire le constat des désagréments en termes de paysages. Hein. On parle de paysages exceptionnels qui sont aussi un atout économique. Clairement, avoir des endiguements ou des enrochements partout, c'est pas forcément toujours acceptable. Et ça fait longtemps finalement qu'on a compris aussi l'intérêt que peuvent avoir une dune en bon état ou un marais littoral en bon état pour limiter les risques, pour vraiment avoir un rôle de tampon finalement vis-à-vis des tempêtes ou vis-à-vis des submersions pour protéger finalement des secteurs habités, des habitations, etc. Donc ça, on redécouvre quelque part un peu ça, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature et de plus en plus, effectivement, on les voit fleurir partout et on comprend leur avantage.
Virginie vous demande, Élise Poirot, on parle de dunes, de digues, est-ce que des marais peuvent aussi freiner l'érosion ?
Alors, l'érosion, pas forcément, mais vis-à-vis du risque de submersion, avoir finalement une zone de marais naturelle qui encaisse quelque part l'onde de submersion, ça permet vraiment de gagner plusieurs centimètres de submersion en arrière et ça vient ralentir aussi l'onde finalement. Donc, en matière de gestion du risque, ça a un vrai intérêt. Mmh. Et puis, même au regard de l'érosion, on peut se dire qu'effectivement, le marais sera grignoté progressivement, permet de gagner du temps par rapport à nouveau à des secteurs habités où on peut se donner du coup ce temps-là pour relocaliser, pour faire évoluer les usages et les activités.
Stéphane Costa, vous le disiez, vous étudiez ces sujets depuis longtemps, vous avez vu aussi l'approche changer, on est un peu moins sûr de nous, un peu moins démiurge sur l'idée qu'on va tout organiser et qu'on va faire face à la mer et à la force de la houle, et on fait plus profil bas avec la mer aujourd'hui.
Oui, on sait qu'effectivement on ne pourra pas lutter.
Ouais.
Et donc les solutions fondées sur la nature évoquées par Lise Poirot sont une des solutions pour se donner un peu de temps, mais je l'évoquais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être dogmatique non plus, ouais. Il y a des endroits où les enjeux sont tellement forts qu'on pourra mettre des ouvrages pour se protéger, mais avec un discours et un engagement clair. On met les ouvrages pour se donner du temps pour organiser le repli, parce que là encore la nature ne nous laissera pas le choix.
Bernard vous demande, les prélèvements de sable sur les bassins versants de fleuves et les barrages n'ont-ils pas un rôle sur le phénomène d'érosion côtière, une régulation n'est-elle pas nécessaire ?
Alors, pas partout en France. Pour la majeure partie de la France métropolitaine, effectivement, les rivières, les fleuves transportent surtout des matériaux fins, des fines. En revanche, par exemple, en Méditerranée, on peut dire éventuellement dans les Bouches-du-Rhône, il y a des études des collègues d'Aix-en-Provence qui ont montré que les prélèvements ou l'arrêt des transports sédimentaires dans les cours d'eau ont limité les apports sur les plages et donc ont généré des érosions côtières.
Ah oui.
Donc oui, dans certains environnements, ça fonctionne comme ça.
Et puis Quentin vous pose cette question, Stéphane Costa. La montée des océans aura-t-elle des conséquences sur la montée des ruisseaux et fleuves ?
Tout à fait, excellente question. L'erreur consistera à croire que l'élévation du niveau des mers ne va impacter que le littoral. Non, cette élévation du niveau des mers va bloquer les écoulements fluviaux. Et bien évidemment, ce blocage des écoulements va générer une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations continentales. Oui. Donc loin à l'intérieur des terres, plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres.
Raison de plus pour envisager ce problème de façon nationale et avec une solidarité nationale. C'est d'ailleurs ce que dit le comité national du trait de côte qui s'est créé en 2023 pour le financement. Ce ne sont pas juste les communes concernées qui vont devoir mettre la main à la poche, Stéphane Costa.
Non, je souscris totalement à ce principe de solidarité nationale. On va tous sur littoral. Les communes rétro-littorales vont aussi sur ce littoral et en bénéficient. Je pense que tout le monde doit contribuer pour aider ces personnes en difficulté.
Élise Poirot, vous l'avez mentionné dans cette émission, mais c'est aussi, ça concerne le tourisme, ça concerne les activités industrielles. C'est toute notre façon de vivre sur le littoral qui est à repenser.
Complètement, complètement. Évidemment, on tire beaucoup de bénéfices de la mer, très divers, c'est pas forcément toujours monétaire d'ailleurs. Un des premiers enjeux qui est exposé, c'est le sentier du littoral. Et je pense qu'on est très nombreux finalement en France.
Oh, décidément, on aura eu beaucoup de points de suspension avec Élise Poirot dans son jardin. La communication passe assez mal. Il faut repenser, par exemple, un parc ostréicole. Si la mer bouge, Stéphane Costa, ça a des conséquences pour lui.
Bien sûr, on va transiter tranquillement avec cette élévation du niveau des mers. Alors, je dis tranquillement, effectivement, il y a probablement des auditeurs qui pourraient me sauter à la gorge. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Et c'est ça qu'il faut organiser. Et si possible, mettre tout le monde autour de la table, tous les acteurs autour de la table pour s'organiser progressivement à se déplacer vers l'intérieur des terres.
Allez, suite et fin de notre discussion dans un instant avec vous, Stéphane Costa, et peut-être Élise Poirot.
Mon amour.
C'était Émilie Simon qui chantait « Désert » sur France Inter. Et merci à Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de cette émission. On s'intéresse toujours à notre littoral, alors de métropole et aussi des territoires d'outre-mer. Qu'en est-il, Stéphane Costa, pour les territoires d'outre-mer ?
Eh bien, c'est encore plus dur pour les territoires d'outre-mer. Déjà, ce sont des territoires qui connaissent une élévation du niveau des mers qui est plus importante, mais ils connaissent d'autres aléas également, les cyclones, parfois les tsunamis, le volcanisme, donc ils cumulent tout ça. Et se pose une autre question sur les outre-mer, c'est aussi le rétro-littoral qui pourra accueillir les populations et les activités qu'on va déplacer.
Parce que parfois, le relief, quand on recule un peu dans la terre, ne permet pas tellement de construire et de relocaliser les personnes qu'on aura enlevées du littoral.
Exactement, vous avez des îles hautes avec des fortes pentes, de fortes précipitations qui génèrent des glissements de terrain, des ruissellements importants, des débordements de cours d'eau. Oui, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis on peut parler aussi des atolls, où là pour le coup, il n'y a pas d'arrière de rétro-littoral. Ouais. Le déplacement des populations va entraîner un vrai déracinement. Donc dans les Outre-mer, ça va être encore beaucoup plus compliqué.
Mmh. Si on est sur les îles, alors une île de la métropole cette fois, mais Philippe vous demande, petite question par rapport à l'avenir de la presqu'île, alors c'est la presqu'île d'ailleurs, du Cap Ferret, y a-t-il un risque qu'elle disparaisse un jour ?
Oui.
Bah alors oui,
j'ai fait court.
Vous faites court, mais vous nous plombez comme ça. Oui, vraiment, il y a oui, des morceaux de territoire comme ça
sûr,
qui peuvent entièrement être rayés de la carte.
Oui, bien sûr.
On est à quelle échéance pour le Cap Ferret, par exemple ?
Alors, je peux pas donner de date, je peux pas donner de période, mais dans les décennies qui viennent, effectivement, ça va être extrêmement compliqué. Mmh. Mais comme pour le Cotentin, avec un mètre, peut-être plus d'élévation du niveau des mers, effectivement, le Cotentin peut être aussi coupé en deux. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de territoires, malheureusement, qui vont disparaître. Et c'est aujourd'hui qu'il faut s'organiser pour s'adapter.
Élise Poirot, il y a des îles bretonnes qui sont condamnées à moyenne échéance ?
Eh ben, effectivement, il y a quelques îles qui ont un niveau très peu élevé par rapport au niveau de la mer. Mm-hmm. Donc pour celles-là, évidemment, les inquiétudes sont multiples. On peut citer l'île d'Ars, par exemple, dans le golfe du Morbihan, où les élus, en revanche, se sont bien saisis de ce sujet-là. Et puis d'autres, comme Ouessant, par exemple, ou Belle-Île, évidemment, sont des îles rocheuses avec un plateau assez élevé par rapport au niveau de la mer. Donc la question est très différente. On pourra avoir des nouvelles îles, en revanche.
Ah, des îles qui pourraient se former. Selon quel phénomène ?
Mais ne serait-ce que la presqu'île, pour le coup, de Quiberon aussi, qui est reliée au continent par un isthme assez étroit et qui connaît une érosion assez marquée. Et donc là, évidemment, on parle de deux communes qui pourraient se détacher du continent, mais on parle aussi de la desserte vers les îles, pour le coup, Belle-Île, Watt et Dick, qu'il faudrait repenser. On a une route, on a une voie ferrée qui passe sur cet isthme. Donc ça, c'est forcément un point d'enjeu extrêmement important pour la Bretagne.
Ouais, Stéphane Costa, Odile, un peu indigné, dit mais comment est-il possible que l'on accorde encore aujourd'hui des permis de construire en toute bordure de mer ? Est-ce que c'est le cas déjà ?
Alors il y a la loi littorale qui normalement nous empêche de le faire, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres lois qui avaient une vocation de densification de certaines communes, et il y a des communes qui ont profité de cela pour densifier dans des zones qui vont devenir dangereuses.
Bien. Et vous m'avez dit quand même, c'est peut-être la chose positive, c'est que il y a vraiment un réveil aujourd'hui. Ce sont des questions que l'on traite avec beaucoup plus d'intérêt. On sent que tout le monde se mobilise. Et...
Ouais, je crois que vraiment on va vers le meilleur. En tout cas, on essaye d'y aller.
Merci Stéphane Costa et Élise Poirot d'être passés par la Terre au Carré. Demain, rendez-vous pour le club de la Terre au Carré. Il sera question de bambou, de jardin et de marche à pied. Et nous aurons le plaisir d'avoir parmi nos invités une certaine Noëlle Bréham. À demain.